peux être beaucoup plus mal dans l'esclavage lui-même. C'est-à-dire que tu peux tomber d'un degré encore plus grave, puisque justement, quand Moshe a été envoyé, les pierres qu'ils avaient déjà, maintenant c'est eux qui doivent les faire, les fabriquer. Donc c'est beaucoup plus dur. C'est-à-dire que l'étape est en train de s'aggraver. Alors comment est-ce que tu peux me parler de Géoula alors que ça s'aggrave? Ça veut dire que dans le processus de Géoula, c'est paradoxal. Il y a des moments où on a l'impression de reculer, alors qu'on est encore dans le processus. Et d'une manière générale, à chaque fois, nous parlons de quelque chose qui va vers la lumière, et qui, d'une manière paradoxale, lui aussi, rentre dans un degré de noir. Un exemple simple, je prends une fusée pour aller vers le soleil. Je suis censé aller vers la lumière. Au bout de quelques minutes, je suis dans l'obscurité totale. Mais je suis en train d'aller vers la lumière. Comment ça se fait que sur Terre, il y avait de la lumière? J'ai quitté la Terre pour aller vers le soleil. Donc, je me rapproche du soleil et pourtant, je suis dans le noir. Un autre exemple. La nuit, avant que l'aube arrive. Eh bien, les sages nous disent, et la réalité nous dit que il fait beaucoup plus noir au moment même où la lumière va sortir. Il y a comme un décalage entre le passage du noir vers la lumière où il y a une augmentation du noir et une augmentation de la sensation même de froid. Donc, nous voyons des paradoxes. Alors, pour essayer de comprendre et d'avancer avec le processus de Géoula, j'ai pris donc Be'ezrat Hashem comme support les écrits du Rav Harlap dans Ma'ayane Yeshua, et nous allons Be'ezrat Hashem les développer. Donc nous sommes dans le chapitre 1, Soda shel Tkufat HaMa'avar, le secret de la période du passage entre un degré de notre temps et un autre degré de notre temps. Est-ce que vous arrivez à voir, à entrevoir l'évolution des choses? C'est difficile. Quand vous allez avoir des enfants, vous allez voir qu'il est difficile de les voir grandir. Parce que tu vis avec eux. Donc tu ne te rends pas compte de leur évolution. Et puis d'un coup, ils ont 15, 20 ans et tu te demandes comment c'est passé. Mais c'est la même chose. On peut être en plein processus de Géoula et ne pas comprendre qu'il s'agit de Géoula. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui devant nos yeux. On est en plein processus de Géoula, de libération totale, mais il y a tellement de panique dans le monde qu'on n'arrive pas, ça nous gâche un petit peu le degré de cette Géoula. On se dit, mais attends, il y a trop de problèmes, c'est pas possible que ce soit de la Géoula. Comment est-ce que la Géoula peut marcher en même temps que tous ces problèmes? Tu me dis qu'on va vers le Mashiach, il y a de plus en plus de maladies, il y a de plus en plus de pandémies, il y a de plus en plus de panique dans le monde, personne ne sait plus rien. C'est quoi ça? C'est ça la Géoula? Donc on peut se poser cette question. Donc on va étudier un texte qui va nous expliquer ces moments d'évolution. D'abord, il faut comprendre que ce monde a un but, que la création a un sens. C'est pas que il y a eu une création, puis après on voit comment on se débrouille pour arriver, pour avancer, qu'est-ce qui se passe là. C'est pas comme ça. Kadosh Baruch Hu a une direction. Donc le choix, Kadosh Baruch Hu a choisi le peuple d'Israël, le peuple saint, le peuple du saint béni soit-il. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une volonté divine, manifeste. Asher bachar banu mikol ha'amim, que Dieu nous a choisi de parmi les nations. Petite question, quand est-ce qu'a eu lieu ce choix? Avant la création du monde. D'accord? C'est-à-dire que, quel était le choix en fait de Dieu? Quel était le choix, en fait? En quoi consistait le choix de Dieu? De créer? Et alors? De créer quoi? Qu'est-ce que ça fait par rapport aux autres? Les autres aussi, c'est des créations. C'est-à-dire que le choix de créer Israël, ce n'était pas le choix de créer encore une nation dans ce monde. C'est que cette nation qu'il va créer, elle est porteuse de quoi? Pourquoi? Parce qu'elle est capable, elle seule, d'entendre le message de Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est en ça qu'il y a eu un choix. C'est-à-dire qu'il nous a choisi de nous créer avec la capacité d'entendre. Donc il a intégré en nous tous les éléments nécessaires pour qu'on puisse entendre sa voix. Ce qui apparemment n'existe pas dans les autres nations. Individuellement parlant, tu peux trouver chez les uns ou chez les autres des prophètes qui sont capables d'entendre certaines choses, comme Bilham, mais au niveau national, impossible. Le peuple d'Israël a été fabriqué avec une matière spirituelle et matérielle qui nous donne la possibilité de l'entendre. Ça, c'était le choix. C'est de nous choisir, de nous créer comme ça.
Quelle? La seule différence qu'il y a entre nous et les Gaïs.
Quelle? C'est une différence essentielle. C'est de savoir entendre, d'être à l'écoute, d'être le, comment on dit, Ben Siach, l'interlocuteur de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu veut faire quelque chose dans le monde, il passe par Israël. C'est énorme. C'est énorme. Et donc il a choisi de nous créer avec cette capacité-là. C'est ça le choix, en fait. D'accord? Il n'y a pas. C'est ça le... Au niveau de la compréhension humaine rationnelle, on n'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que ça n'a pas de sens pour nous. C'est un choix divin, c'est un axiome de base. Asher bachar banu mikol amim. Asher ha'am shekacha lo. Heureux le peuple qui est comme ça, c'est comme ça, on ne sait pas. D'accord ?
Mais aussi, peut-être que eux aussi font la volonté de Dieu.
Tout à fait. Tout à fait, dans un autre domaine, ça veut dire qu'ils ont une autre qualité, d'autres pouvoirs, d'autres capacités, donc ils ont été choisis pour cette capacité. Nous, on a été choisis pour révéler, pour traduire, pour être un dictionnaire des valeurs de l'infini, ce qui est pratiquement impossible. Comment tu peux traduire l'infini en action, en petite mitzvot, de savoir même quel lacet tu dois attacher, celui de gauche ou celui de droite en premier. C'est terrible d'arriver à cette définition, à cette résolution. Bien, il n'y a que le peuple d'Israël qui peut arriver à cette résolution aussi précise. Et tout ça vient de l'infini. Incroyable. Donc nous sommes en fait un dictionnaire qui traduit les valeurs de l'infini dans ce monde fini. Ça, c'est notre rôle. Ou est-ce que nous avons un verset prophétique qui nous dit ce que je viens de vous dire? Dans Isaïe 43, Isaïe 43 nous dit « Je me suis fabriqué un peuple pour moi. Amzu yassarti li, tehilati yassaperu. Je l'ai créé, ce peuple-là, pour qu'il raconte et qu'il définisse. Tehila vient du mot Hallel. C'est-à-dire pour qu'ils arrivent à concevoir mes idées infinies dans un monde du fini. »
On y arrive.
Mais voilà qu'on y arrive. C'est ce qu'on est en train de faire depuis le don de la Torah.
Vous
étudiez la Torah ? Okay. La Torah, c'est la volonté divine qui nous arrive à nous, à Israël, qui passe par Israël, et avec ça, on est en fait la lumière pour le monde, de cette Torah. Pas d'autres valeurs seulement. Okay. Cette Torah.
Mais c'est pas un peu ça, de rabaisser la Torah à ce que les humains arrivent à l'étudier ?
C'est ce que Dieu veut. Vibra Torah, kilshon bnei Adam.
Donc il rabaisse la Torah.
Okay. C'est un rabais. De toute façon, créer le monde, c'est déjà se rabaisser de son infinité. On est d'accord?
Alors, ça peut montrer sa puissance.
Il y a fait. Alors, pourquoi là, tu ne la trouves pas, sa puissance, de pouvoir se concentrer justement dans une Torah qui est arrivée à l'homme?
C'est pas bon.
Tu viens de me dire que créer le monde, c'est montrer sa puissance.
Oui.
Et condenser toute la volonté divine dans une Torah, ce n'est pas de la puissance qui est compréhensible par l'homme. Pourquoi tu vois ça comme un rabais? D'accord? Donc on est d'accord. Donc, le choix du divin de créer le peuple Kodesh, Vacher Am Kotcho Bacharu Boid Barach Shemo, que ce peuple qui est Kotcho, qui lui appartient, il y a une notion d'appartenance, ça veut dire je vous ai créé pour moi en fait. Vous êtes moi sous une forme humaine. Voilà ce que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est presque dangereux, ok? C'est-à-dire que toutes mes valeurs ne passent que par vous. Et si d'ailleurs vous n'êtes pas témoin de ce que je suis, c'est comme si je n'existais pas. Atem Edai, Neum Hashem. Vous êtes mes témoins, je le jure par mon nom. D'ailleurs, vous ne témoignez pas, personne ne me connaîtra. C'est par votre témoignage que les gens vont me connaître. D'ailleurs, je vais vous utiliser, je vais vous sortir d'Égypte, et en voyant comment vous sortez d'Égypte, on va voir en réalité ma force. Donc, quand Dieu nous sort d'Égypte, c'est qui le sauve en réalité? Lui-même.
C'est pas égoïste, ça?
C'est pas égoïste, puisque nous avons un Zohar qui nous dit que Dieu, Israël et la Torah, c'est une seule et même chose. Ça veut dire, nous sommes sa révélation sur terre. Et voilà un autre verset dans Tehilim 135, qui Yaakov bachar lo ya Israël isgulato. Car c'est Yaakov que Dieu a choisi, Israël isgulato, et la segula c'est Israël. Qu'est-ce que c'est une segula? Une capacité de base que Dieu a implantée à l'intérieur de nous. Il nous a mis cette capacité, quelle, je ne sais pas comment vous appelez ça au niveau technologique aujourd'hui, technique, il nous a mis une matrice, une carte mère, j'en sais rien moi, qui te dit, voilà, toi tu es capable d'entendre ce que je vais dire. Tu as un dictionnaire simultané à l'intérieur de ton cerveau, Israël, tu es le seul capable d'entendre. Ok, un capteur.
Mais non, ce capteur-là,
on le
reçoit directement.
On le reçoit, il est gratuit. Gratuit. Tu l'as reçu depuis que tu es né, tu fais partie de ce peuple d'Israël, tu as ce capteur. Maintenant, est-ce que tu l'utilises ou pas? Ou combien tu l'utilises? Ou combien tu n'utilises pas? Et d'ailleurs, on ne peut rien te reprocher si ce n'est que ça. Combien de ce capteur tu as utilisé durant ta vie? Est-ce que tu as utilisé cette... comment on dit, on est maintenant dans les iPhones, cette application. Ouais. Combien de cette application tu as utilisé? Combien de pourcentage? C'est ça notre problème maintenant. Hen bechirot nisriot velo yavo bahem shum shinui. C'est un choix de nous créer de telle manière sans aucune possibilité de changer. C'est-à-dire que tu peux faire toutes les bêtises que tu veux dans ta vie, ta carte, elle reste à l'intérieur de toi.
Mais tu pourris pas...
Tu ne peux pas pourrir cette carte. Tu ne peux pas la salir, mais comme tu as fait des bêtises, cette carte ne peut pas se réaliser. Donc c'est comme si on te l'avait posée gratuitement et qu'elle n'a servi à rien. En cela, tu es un rachat. Et si tu es un sadique, eh bien tu vas appliquer un paquet de cette capacité, de cette fonction-là, de cette carte. Voilà la différence. D'accord?
Okay. Du coup, ça change quoi pour la personne qui fait des choses mal?
Tout simplement qu'elle n'était pas dans sa vie un canal par lequel ça va passer. Donc elle vit moins. Donc elle sera morte, même de son vivant. Et c'est pour ça qu'un rachat est appelé mort, même alors qu'il vit. Tu le vois rouler en voiture, les cheveux au vent, avec un décapotable, mais c'est un rachat parce qu'il ne vit pas vraiment. C'est là. Alors, les notions de vie et de mort, c'est ça, en réalité. C'est combien tu vis de sa réalité infinie, ou combien tu as l'impression de vivre, mais en fait, tu ne vis pas. Tu bouges. Hen bechirot mitzriot, donc ce sont des choix éternels, ça ne change pas. Velo yavo bahem shum shinui chalila. Et tu peux rien changer. Le fait qu'un juif se trompe et fausse, comment est-ce qu'on dit ça en hébreu? Israël, af alpi shechata, Israël hu. Un Israël, un homme d'Israël, même s'il a fauté, il continue de s'appeler Israël. On ne peut pas lui enlever cette carte mère. Comment tu peux supprimer Jésus? Mais en réalité, il est jugé comment dans le ciel? Comme un juif ou pas? C'est tout. Mais parce qu'on ne veut pas d'un homme comme ça dans notre peuple. C'est un rachat. Mais dans le ciel, il est jugé comme un juif. Ce qui prouve que il est jugé par rapport à sa capacité de base qu'il a reçue. On ne peut pas juger si tu n'as pas ta capacité de base. Selon quoi tu vas juger? Il n'a pas détruit. S'il avait détruit, on ne l'aurait pas jugé selon cette capacité. Tu es obligé de le juger selon sa matrice de base. Voilà ce que tu devais être, et voilà tout ce que tu as fait. Donc ça, ce que tu devais être, ça ne bouge pas. C'est d'ailleurs le critère selon lequel on va te juger. D'accord? Et d'ailleurs, la Gemara dit que là-bas, il dit lui-même, parce que quelqu'un est allé le voir sa neshama, il dit, voilà, je paye aujourd'hui tout ce que j'ai fait de mon vivant parce que je suis Israël, je suis resté Israël, et tout ce qui est né de mes erreurs, c'est par rapport à Israël que j'étais, et que je suis toujours. Quel?
Vous avez dit, il a été jugé sur ce qu'il aurait dû être et sur ce qu'il a fait.
D'accord.
Mais est-ce que c'est possible de vraiment être comme on devrait être?
C'est ce qu'on doit arriver toute notre vie à essayer de faire. C'est-à-dire que tu avances pour revenir à ce que tu es vraiment dans ta capacité de base. Il faut que tu saches quelle est cette capacité de base. Alors, d'une manière très simple, quelle est notre capacité de base?
De vivre.
Même un chat vit. C'est quoi être un bon juif? Notre capacité de base, c'est d'être prophète. On a réussi. Certains ont réussi à le dévoiler, à le sortir. Chacun doit s'efforcer à devenir, en fait, dans sa capacité la plus élevée, c'est d'entendre et d'être à l'écoute des valeurs de Dieu pour les transmettre aux autres. Non, ça s'appelle la prophétie. Quand la prophétie s'éteint, il y a donc un problème dans le monde. Et donc, il faut revenir à la prophétie. C'est ce que je suis en train de te dire. Il y a eu un problème dans le monde. Les derniers prophètes sont devenus des kabbalistes. Après les kabbalistes, c'est en fait le début de la reprophétie, du retour à la prophétie. Donc aujourd'hui, si vous voulez voir un futur prophète, c'est un kabbaliste. D'accord? Ok.
On dit que plus le temps il avance, plus le niveau des rabbinim il baisse parce que le niveau du peuple il augmente.
Okay.
Alors, à ce niveau-là, pourquoi il n'y a pas des prophètes dans le peuple?
Il y a aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, tu ne les appelles pas encore prophètes, mais il y a de plus en plus de gens, dans des enfants, c'est une prophétie de Yoël au chapitre 2, où les enfants vont commencer à rêver, à faire des rêves, et ça va être des rêves très 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 importants qu'il va falloir prendre au sérieux de plus en plus.
D'accord.
Alors on a perdu ça, on a eu 2000 ans d'exil, et on est en train de revenir à ça. C'est vrai? Donc, il n'y a pas de changement dans cette carte. C'est ça la clé pour l'instant. Ki ani Hashem lo shaniti, voilà le verset utilisé dans Malachi. Quel? Parce que moi, l'Éternel, je n'ai pas de changement. Chez moi, le changement n'existe pas. Parce que je ne suis pas soumis au temps. Donc, il n'y a pas de changement. Je ne suis pas limité, comme dans votre cerveau à vous. Ve'atem bnei Yaakov lo kelitem. C'est pour ça que vous n'êtes jamais détruits. Je vous prouve que vous êtes éternel. Ça veut dire que tous ceux qui voudront vous massacrer n'arriveront jamais. Donc, tout le monde va disparaître autour de vous et vous serez encore là jusqu'à la fin des temps, y compris la fin des temps. C'est une prophétie qui se réalise. Parce que nous avons été créés pour lui. Donc s'il n'y a plus Israël dans le monde, qu'est-ce qu'il n'y a plus dans le monde? Akadosh Baruch Hu, Chas V'Shalom. Il n'y a plus de dévoilement. Donc il n'y a plus de monde. Donc le monde n'a plus de sens. Et maintenant vous comprenez pourquoi le jour du don de la Torah, Parce qu'on est en train de recevoir le message que Dieu veut faire passer par nous. Parce que nous avons la capacité de recevoir ce message. Bien, si on ne reçoit pas ce message, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il ramène le monde au Tohu Bohu. C'est ce qui a marqué là-bas. Je vous étouffe, j'étouffe tout et c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'histoire. Rétroactivement, je rebobine le film. Vous êtes avec moi? Vous avez compris ce que je viens de vous dire? T'as pas compris? Si Israël est censé faire passer le message du divin, le message du divin, il passe par quoi? Par la Torah. Si on décide de ne pas recevoir la Torah, au moment du don de la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde ne va pas recevoir. Donc le monde n'a pas de sens. Donc Israël, en fait, n'a pas de sens d'exister. Donc Dieu n'a plus raison d'avoir ce monde. Donc il remet tout au tohu bohu, il ramène tout au début, comme si de rien n'était. Tout est effacé.
Ça dépend
d'Israël.
La capacité des gens.
Non, pas de la capacité. La capacité, on l'a, je t'ai dit.
La quantité.
Non, la volonté de recevoir.
Qui nous dit qu'il
n'a pas déjà fait quoi?
Il n'a pas déjà tout effacé, que là on est un renouveau.
Pas du tout, parce que là nous avons une Torah. Nous avons une Torah. Quelle? Alors, il a fait des mini-effacements dans le déluge, dans la sortie d'Égypte. C'est un nouveau monde, la sortie d'Égypte. Vous comprenez en réalité, qu'est-ce qui est la plus grande révélation de la sortie d'Égypte? C'est qui? C'est quoi? C'est Israël. Dieu a sauvé le peuple qui va être le porte-parole. C'est ça qui s'est passé à la sortie d'Égypte. C'est pas qu'il y a eu des esclaves et qu'ils sont sortis de l'esclavage. C'est que le porte-parole de Dieu a été libéré. Donc la parole de Dieu maintenant va pouvoir descendre sur terre. Est-ce que ça équivaut à la création du monde, ça?
Oui.
Bien sûr. D'ailleurs, il y a deux Tanaïm qui se posent la question, quand est-ce qu'il faut prendre la date de la création du monde en compte? Est-ce que c'est au moment de la création de la matière? Ou bien est-ce que c'est le moment de la sortie d'Égypte? Eh bien, Rabbi Yoshua, dans la Gemara, Rosh Hashanah, à la page 10, B, nous dit que pour lui, la création du monde, la vraie création du monde, c'est le mois de Nissan, donc la sortie d'Égypte. Alors que Rabbi Eliezer nous dit, c'est le mois de Tishré. Est-ce qu'il a tort, lui?
Non.
C'est aussi une création du monde, mais création de la matière. Mais quand est-ce que réellement le sens du monde va prendre son sens? À la sortie d'Égypte. Donc on peut très facilement prendre en compte, et très sérieusement, la sortie d'Égypte comme la création du monde. Donc la sortie d'Égypte, c'est la deuxième création du monde. Voilà. Mais après cela, il y a Israël maintenant dans le monde. C'est fini. On a déjà reçu ce message. Le message divin. Il est déjà passé par nous. C'est fini. Quel?
Dans un film, vous avez remis une enquête disant que Dieu n'allait pas laisser le sort et la possibilité de la violence entre les mains des hommes.
C'est-à-dire
qu'il y a un livre sur le club dans les actes et jours, et que pour les grands projets, il n'y a pas de livre.
Tout à fait. C'est pour ça que Dieu, qu'est-ce qu'il dit au peuple d'Israël? Si vous ne recevez pas, qu'est-ce que je fais?
Je
vous mets la montagne dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous oblige.
Le problème, c'est seulement nous.
D'accord. Pas du tout. Si je dis que je mets la montagne sur vous, ça veut dire que je vais vous obliger à recevoir la Torah. Parce que si vous ne la receviez pas, sachez que le monde n'existe pas. Donc je ne peux pas, moi, rater ma création, donc je vais vous obliger à recevoir, parce que de toute façon, vous avez été fabriqué pour ça.
Mais une autre nation aussi, elle peut dire autre chose.
Non.
Nous, on n'a pas eu ça.
C'est la même question que tu as posée tout à l'heure. On est d'accord. Elles ont reçu leur rôle à faire. Nous, notre rôle, il est primordial. C'est que s'il n'y a pas la parole divine dans le monde n'a pas de sens.
Non, mais...
Même si tu fabriques une voiture.
Si vous dites que la montagne est sur nous, on a été obligé de prendre ce rôle-là,
de jouer notre rôle.
Eux, ils peuvent dire, mais nous, on n'a pas eu ça dans notre histoire, on n'a pas eu cette montagne qui était sur nous.
Tout à fait, ils le disent, ils vont le dire.
Et qu'est-ce qu'on va
dire? Et on va, à Kadosh Baruch Hu, va leur dire, bon, maintenant, faites-moi une mitzvah, une petite mitzvah, la soukha. Et c'est exactement ce qui se passe dans la fête de Soukhot. Et après, il fait sortir le soleil, et il donne des coups de pied dans la soukha. Ça veut dire quoi? C'est juste pour nous prouver que ça ne fait pas partie de leur structure intrinsèque. Nous, la Torah, elle fait partie de nous, c'est nous. D'ailleurs, la montagne, elle était creuse ou plate? Plat, pas du tout. Kafa ale metahar ke gigit. Vous savez ce que c'est une gigit? Une bassine. Donc il aura mis la montagne comme une bassine. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la montagne, ils étaient vivants. Ben oui.
Ils sont tous morts et que...
Ils sont pas morts. Ils sont morts de quoi? Ils sont morts de la grandeur de la lumière par rapport à tout cet événement-là. Ils se sont dit, waouh, c'est trop fort. D'aber ata iman ou penamout, parle-nous toi, mon cher Abelou, parce que c'est trop fort. Et en réalité, il pouvait entendre. Puisque Moshe, il fait partie aussi de ce peuple, il a entendu. Il n'y a pas de raison que Moshe l'entende et que les autres non. C'est-à-dire que nous sommes tous des prophètes. D'ailleurs, le don de la Torah, c'est quoi? C'est une prophétie, on est d'accord. David, comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'un peuple entier chante la même chanson quand ils sont sortis d'Égypte? Avec les mêmes paroles, la même musique, la même mélodie, sans qu'il n'y ait même pas une photocopieuse, ni le Machon Meir, pour faire des textes. Et vous chantez tous « Az Yashir Moshe Ubne Israël ». D'où ils ont les paroles? Ils savent ce qu'ils vont dire? C'est quoi la prochaine phrase?
Okay.
Non, il n'y avait pas la Torah encore.
Non, ça continue comme ça tous les Shabbatot.
D'accord. Todak Modara. Ken.
Vous avez dit que la Kabbalah, c'est un dévoile, c'est une de la nouvelle prophétie.
D'accord. J'ai dit que les derniers, après la fin de la prophétie, il est resté les Kabbalistes, et avant le retour à la prophétie, c'est toujours les Kabbalistes.
Mais si. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Kabbalah, au bout de 40 ans de Torah, on peut l'étudier.
Non. Bien avant, mais c'est pas grave.
Ok.
Okay. Hein? Comme sur chaque chose. J'ai déjà vu un truc où il y a un seul avis.
Et puis, au moment du don de la Torah,
oui.
Ils ont pas supporté la Kedusha. Ils avaient ça, le potentiel.
Ils avaient le potentiel, mais ils l'ont pas.
Ils n'ont pas
travaillé.
Oui,
c'est tout.
C'est comme la Kabbalah aujourd'hui, je pense, non?
Non. Pas du tout. Parce qu'ils n'avaient pas, en fait...
Il faut être prêt.
La génération est prête. C'est la dernière génération. Je ne parle pas des individus. Toi, tu parles de l'individu. Il a l'an 0, il a l'an 40. Mais moi, je te parle de tout le monde. Le monde, c'est aussi l'humanité. Ouais. On est d'accord? On est déjà à la fin des 6000 ans. Ça ne suffit pas? C'est-à-dire que la génération tout entière est tellement vieille maintenant... qu'elle est déjà apte à recevoir cette Torah. C'est tout. D'accord? Au niveau de la génération tout entière, on est déjà très vieux, mature.
Comment ça fait que les autres nations peuvent changer leur structure dans ce cas-là?
Elles peuvent pas changer leur structure.
Alors pourquoi ils peuvent devenir Israël?
Ils peuvent devenir Israël parce qu'ils étaient déjà Israël. Ils reviennent à la maison. Je vous ai déjà expliqué qu'un converti, c'était quelqu'un qui était déjà Israël, mais ses arrière-grands-parents sont sortis. Ils se sont mariés avec d'autres personnes et la Neshama, elle erre pendant, je sais pas moi, 200 ans. Et après, le type ou l'arrière-arrière-petit-fils, il se dit, tiens, j'ai envie de revenir à la maison, en fait. Yes.
J'ai une question. Vous avez dit qu'ils avaient accepté de leur mettre la montagne dessus. Mais avant ça, il leur a pas demandé d'abord s'ils voulaient la Torah.
Oui.
Donc ils ont dit oui, je veux la Torah. Et après, une fois qu'ils ont dit oui,
parce qu'ils ont exactement, parce qu'ils ont vu que c'était... trop grand, trop fort. Trop fort. Donc en fait, ils ont dit, bon, on veut bien, mais à certaines conditions. On veut la Torah écrite, la Torah orale, c'est un petit peu plus difficile, et c'est sur la Torah orale qu'il leur a mis la montagne. Pas sur la Torah écrite.
Ah, il leur a mis, il leur a pas dit si vous êtes...
Il leur a mis la montagne. Ah, il leur a mis. Kafa alehem et tahar kegigit. Quand est-ce qu'ils ont reçu la Torah orale? À Pourim. Donc à Pourim, on a tout reçu. Histoire de pourri, 1000 ans plus tard. On a accepté la Torah orale, cette fois-ci. Torah écrite, on l'avait déjà acceptée au Sinaï.
On n'a pas eu les deux en même temps?
Non. D'accord? C'est le secret de Babylone. La Gemara de Babylone, c'est avec ça qu'on est sorti de Babylone.
Ok, mais les Mishnah, elles existaient déjà, non?
D'accord, mais la Torah aussi, elle existait. Mais c'est des explications de cette Torah. C'est pas encore mis en place, mis en canon, mis dans un ordre. D'accord? Il faut un ordre pour ça. Tout ce qui était la Mishnah avant, c'était la Torah orale, elle était orale, elle restait orale. Il fallait l'écrire.
Orale, expliquer aussi.
Bien fait, mais orale. Il fallait pas l'écrire. Quand est-ce qu'on a écrit réellement les choses? D'accord? On savait les choses oralement.
Mais du coup, une dernière question.
C'est une dernière, c'est sûr?
Non, c'est une dernière. Si leur aura mis la montagne, pourquoi on dit qu'il leur a dit si vous acceptez pas, je vous mets la montagne?
Non.
C'est pas ce qu'il leur a dit.
Il leur a dit si vous n'acceptez pas, Sham Tehek Vouachrem, c'est là-bas que sera votre enterrement. C'est ça qu'il leur a dit. Sous cette montagne.
D'accord.
Pas, je vais autre chose, d'accord?
Pourquoi on dit qu'on a reçu à Pourri notre Torah si on n'avait pas le droit d'écrire? C'est-à-dire qu'on l'a accepté.
Une fois qu'on a reçu, ça veut dire qu'on a accepté en fait la difficulté d'étudier la Torah orale. C'est ça qu'on n'avait pas reçu. Parce que c'était tellement dur, nous dit Rachid, parce que pour étudier la Torah orale, il faut enlever quelques heures de sommeil dans la nuit, il faut un petit peu moins s'occuper des choses de ce monde, parce qu'il y a un labeur pour rentrer à l'intérieur de la Torah, et oralement, c'est-à-dire dans la Gemara, dans la Mishnah, dans le Zohar, dans tout ce qu'on fait, c'est une recherche très forte. Ça prend beaucoup de force à l'homme, et c'est sur ça qu'il n'était pas trop d'accord au départ.
Et quand Moshe, il enseignait à tout le peuple, les deux Rachamim, la Torah orale.
C'était encore la Torah écrite qu'il avait mise à un certain niveau pour que ce soit encore digestible. D'accord? Digéré par le peuple. Voilà. Alors, donc il y a une promesse divine. Moi, je ne change pas. Et vous, vous ne serez jamais. Jamais quoi? Non. Détruit. Voilà. Et de la même manière que la Shekhina, elle bouge avec le peuple d'Israël quand lui bouge, s'il y a un exil, qu'est-ce que fait la Shekhina? Elle part, elle aussi elle est en exil. Elle est avec qui? Avec Israël. Donc ça veut dire que la Shekhina, donc la présence divine, elle est toujours avec le peuple d'Israël. Donc ça veut dire que quoi? Que le peuple d'Israël est toujours le porteur de
du message
divin. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Et chaque fois que nous étions dans cette situation, dans toutes les générations, celui qui était au-dessus de nous voulait nous avaler, littéralement. D'accord? Et la Shrina, qu'est-ce qu'elle dit alors? Kelani Miroshi, Kelani Mizroi. Je ne peux pas perdre ce peuple, c'est mes enfants. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu nous sauve de toutes les situations aussi dangereuses et aussi grandes soient-elles. Ça a toujours été comme ça. Tout ce qui a commencé par des pogroms, par des... Il n'y avait aucun espoir, aucun... Tu demandais à quelqu'un, Chazé Shalom, dans les chambres à gaz, qu'il y a un espoir. Et quel espoir? Et pourtant... C'est incroyable, on est sorti même de là-bas. Et ça a toujours existé, toujours. Abraham Avinu, on l'a mis aussi dans un four crématoire, dans une chambre à gaz. Il est sorti. Hanania, Michaël, Azaria, eux aussi, ils en sont tombés dans la fournaise, on les a mis dans une fournaise, ils sont sortis. Qu'est-ce que c'est que tous ces exemples? Ça veut dire que rien ne peut détruire ce peuple. Il se construit, il se renaît de ses cendres, comme un phénix. Le volatile du sable. Kalani Mizroi vei ma'em betsara. Et donc, la Shrina est toujours avec le peuple d'Israël dans leur détresse. Tsara. Imo anochi betsara. Et donc, David Amelech a compris ce secret. Il nous dit dans Tehilim 91, je suis toujours avec lui, même dans ses détresses. She'az kol giluya shel ha'shchina hem betzimtzum gadol limeod. Alors, comment il est avec nous pendant l'exil? Avec une grande contraction de sa lumière. C'est-à-dire, on ne reçoit pas sa pleine lumière parce qu'on est en exil. Et quand on est en exil, on a du mal à recevoir la pleine lumière. Mais le minimum vital, il le garde pour nous, pour ne pas qu'on meure totalement. D'accord? Donc, ça s'appelle tzimtzum. C'est une contraction de sa lumière. Gadol Meod, une grande contraction, pour ne pas qu'on meure. Donc un tout petit peu de lumière, juste de quoi vivoter. Veziva ve'odaya adara hem be'alama gdola. Alors que sa grande lumière, sa pleine luminosité, son éclairage, sa splendeur, elle est cachée, très cachée. Ha'ala Magdola. Vezoi la hatzara hayoter gdola. Et sachez, nous dit le Rav, que pour la Shrina, c'est le malheur le plus grand qui soit. Qu'est-ce que c'est que ce malheur? Vous êtes avec moi ou vous êtes, je vous ai largué là?
Non.
C'est de ne pas se dévoiler pleinement sa lumière. C'est de devoir contracter sa lumière pour lui donner un tout petit peu au peuple d'Israël juste de quoi vivre. Il n'y a pas plus grand malheur que ça. Imaginez-vous un rave, un grand rave, qui vient donner un cours, mais les élèves ne sont pas capables de comprendre ce qu'il raconte. C'est une tannée. Le rave, il est dans une souffrance terrible. Le Rachash disait comme ça, « Yesh li yahalomim ve'en li lemi la tête ota. » J'ai des diamants et je n'ai pas à qui les donner, ils ne comprennent rien. Vous savez que le Rav Zuckerman, à la Vachalom, c'était sa grande souffrance. Il avait une Torah tellement profonde et il y avait tellement peu d'élèves qui ont compris ce qu'il disait que c'était une souffrance terrible.
Comment on peut expliquer ça?
Tout simplement parce qu'il y avait un décalage entre sa grande Torah et l'intelligence des élèves, la profondeur des élèves. Il parlait d'un monde d'outre-mer. Bien. Alors que les gens sont au ras des pâquerettes. Donc il y avait un problème de tsimtsum, il fallait qu'il contracte sans arrêt, qu'il fasse des efforts de langage. En plus, il avait un langage qui est très, très difficile en français. Ce n'était pas évident du tout.
Il
parlait français, le Rav Zuckerman, bien sûr. C'est un Belge, à la base, mais avec une intelligence tellement aiguë que c'est difficile. Le Rav Kook, pareil. Quand il vivait, le Rav Kook, combien de personnes allaient à ses cours et comprenaient ses cours? Personne. Personne. Il fallait... Il y a 100 ans maintenant que c'est passé, et seulement maintenant on est en train de commencer à tout petit peu à comprendre certains livres. Ça veut dire qu'il y a des géants qui sont plantés à une certaine génération, qui mettent une Torah à un niveau très très élevé, et qui te laissent, ils ont planté une graine. Après, tu vas faire tout pour arriver à comprendre ce qu'il a dit.
Et le but, c'est pas que justement, ils descendent de...
Ah, non. Le but, c'est de faire monter le niveau d'intelligence. Ça veut dire que le rave, pour être un bon rave, il doit être un tout petit peu plus haut que la capacité de l'élève.
Et là, on arrête tout son niveau.
C'est pas grave. Tu fais un effort. Tu dois avoir l'impression que tu cours dans un couloir après le rave, dans un labyrinthe, et le rave y tient une corde rouge, et toi, tu vois à chaque fois juste la fin de la corde, qui a tourné à gauche, donc tu cours, tu tournes à gauche, et tu vois juste la corde tourner encore dans un autre conduit à droite. C'est comme ça que tu dois être par rapport à l'étude de la Torah. Si le rav est complètement au niveau de l'élève et que c'est trop trop facile, l'élève ne fait pas d'effort. Alors que l'élève doit s'élever. C'est comme ça qu'il s'appelle, donc élève. Donc la Shrina, elle a une souffrance très grande, c'est de ne pas pouvoir éclairer de sa pleine lumière. Donc elle va sortir une petite lumière, alors qu'elle aurait pu sortir sa grande lumière, sa manifestation de Dieu complètement dans le monde. Donc elle ne veut pas dévoiler sa sainteté manifeste. Hadar Yofia, sa beauté extraordinaire, Vehod Malchuta et la splendeur de sa royauté. Tout ça, c'est pas possible, parce que tu parles et les gens ne comprennent rien, alors si tu es dans une grande souffrance. Vous savez, dans la vie, c'est plus une souffrance de ne pas pouvoir donner que de ne pas pouvoir recevoir. Vous savez ça? Quelqu'un qui peut donner, qui n'arrive pas à donner, il souffre plus que quelqu'un qui ne reçoit pas. Parce que le donneur, il y a une puissance de volonté intérieure de donner, mais il est frustré, et donc il est dans un manque de vie. C'est comme un suicide pour lui.
Mais si vous dites qu'il donne, mais qu'il ne reçoit pas, ça ne dépend pas de lui.
lui, il fait son job.
Mais le problème, c'est qu'il est soucieux de savoir combien on a reçu de ce qu'il a donné. C'est pas un conférencier dans une université qui descend, qui rentre dans la salle, il s'en fiche complètement. Même si tu mets des singes ou des hommes à la place, on s'en fiche. Il ouvre son cartable, il commence à donner sa conférence. C'est pas ça la Torah.
D'accord, mais maintenant, comme vous dites, c'est comme une corde, on peut être très très loin de là, et pourtant on tient la corde.
D'accord, mais il y a quand même un degré. La preuve, c'est qu'il y a des élèves qui ont suivi, oui, et qui sont considérés comme les élèves du Rav, et qui vont continuer. Okay. Il y a quand même, c'est pour quelque chose qu'il est arrivé dans ce monde, c'est pas un hasard. Pardon ? D'abord son fils. Son fils et tous les élèves qui étaient autour du fils. Les élèves directs du Rav Kook, il n'y en a plus. C'est les élèves de son fils qui existent. Le Rav Harla. Tout cela, le Rav Bigon, le Rav Léon Ashkenazi, le Rav Zuckerman, le Rav Aviner, tout cela, c'était des élèves du fils, du Rav Tzvi Yehuda, pas du père. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous enseigner, le Rav Harlap, c'est l'élève du père. D'accord ? Donc il est complètement collé au Rav Kook, papa. Donc sa Torah est très proche du Rav Kook. Ok ? Le Nazir, le Rav Nazir, Rabbi David Chai HaKohen, lui aussi était l'élève du Rav Kook, papa. C'est énorme. Hein, il y en a, bien sûr qu'il y en a. Il y en a quelques-uns qui ne sont plus de notre monde, bien entendu. Okay. Ceux qui sont de notre monde, c'est les élèves de l'élève. Rav Aviner, c'est le fils. C'est l'élève du fils. Le Rav Tao. Okay. Tao. Le Rav
Lao.
Non.
C'est le fils, l'élève de Rav Yehuda.
Qui
Rav Tao,
c'est le fils. D'accord. Donc nous avons la chance d'avoir des écrits de l'élève direct.
Ça veut dire que Hachem, il souffre constamment ?
Exactement. C'est bien que tu aies compris ça. C'est bien que tu aies compris ça. Bravo. Akadosh Baruch Hu, dans ce sens-là, c'est la plus grande souffrance. Parce qu'il attend avec impatience que ce monde reçoive sa lumière, alors que ce monde est en train de se balader et de passer à côté. Et c'est pour ça que nous disons que le Mashiach nous attend plus que ce que nous l'attendons.
Après, il va rapidement.
Justement, il nous attend qu'on soit justement dans cette volonté, dans ce vouloir. Combien réellement on veut. Si on était vraiment dans cette capacité de vouloir, vraiment, il serait déjà là. Il nous attend parce qu'on ne sait même pas ce qu'on veut.
Mais comment on sait ce que tu es là ?
C'est ça la Torah, c'est ça l'étude, c'est pour ça que vous êtes là. Déjà, le fait que tu te poses cette question, maintenant, c'est que j'ai réussi, grâce à Dieu, à aiguiser en toi cette question. Ça veut dire qu'il y a déjà une avancée. Dans ta question, il y a déjà une preuve que tu as fait un pas en avant. C'est bien ? Gam az ani Hashem lo shaniti. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Okay ? Donc, même là, Ani Hashem lo shaniti, je ne change pas. Je ne change pas, ça veut dire je ne suis pas deux. Le mot shinui, ça vient du mot shnaim. C'est-à-dire il n'y a pas de deux en moi. Je suis un. C'est pour ça que je ne change pas. Il n'y a que le deux qui change. Ve'oto ha'anochi shel anochi Hashem Elohecha. Et le même anochi qui a été prononcé au don de la Torah. Anochi Adonai Elohecha Asher Hotseticha Me'eretz Mitzrayim. Mi'bet Avadim. Bien, le même anochi de Hashem Elohecha Asher Hotseticha Me'eretz Mitzrayim, Hu, c'est le même anochi shel ve'anochi Haster Astir Panay Bayom Ha'u. Le même anochi qui se cache au moment où il doit se cacher malheureusement. D'accord ? C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans la Torah, Dieu emploie la terminologie anochi, mais parfois c'est pour te dévoiler quelque chose, parfois il voit que tu n'es même pas capable d'entendre ce qu'il va te dire, donc le anochi se cache. On est d'accord ? Qu'est-ce que c'est Anochi d'ailleurs ? Comment la Gemara explique le mot Anochi ? En initial. Il y a combien de lettres dans Anochi ? 4. Aleph Nun Chaf Yud. La Gemara nous dit Ana, c'est moi, Ana, le Aleph, Nafshi, mon âme, mon être intérieur, Kaf Ktavit, je l'ai écrit, et Yud Yehavit, je vous l'ai donné. Ça veut dire dans le Anochi, Dieu se donne complètement pour que sa lumière arrive dans notre monde. Je me suis ouvert à vous, en fait. Vous vous rendez compte de la bonté divine? Je vous ai donné. Je me suis ouvert à vous. Par contre, le même Anochi, à des moments donnés dans l'histoire, comme dans l'histoire de Pourim, va Anochi, Aster, Astir. Je vais me cacher. Ce même Anochi se cache. Que veut dire le mot Anochi en hébreu?
Moi,
et quoi encore? Anachi, c'est quoi Anachi?
Mon accord. Anachi. Ana, s'il te plaît.
Non, Anachi, la même chose, un seul mot. Seulement, au lieu de dire Anochi, tu dis Anachi.
Mon lieu?
Vertical. D'accord? Ça veut dire que Dieu, c'est la verticale qui descend dans notre monde circulaire. Notre monde, il est circulaire. C'est un ballon, une sphère, immense, infinie. Et à l'intérieur de cette sphère, il y a un faisceau de lumière qui vient de l'infini et qui est vertical, en fait. Pardon ?
C'est par rapport à ce que vous avez dit, qu'il n'y a pas de dimension dans la présence de Dieu, il n'y a pas de dimension.
Non, alors, chez lui, il n'y a pas. Mais il a créé un monde avec des dimensions.
Enfin, c'est rond et que maintenant, vertical, ça veut dire quoi ?
Vertical, ça veut dire ce qu'on appelle yosher, la droiture.
Ah,
pas dans le sens vertical, ça. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a une droiture divine. Ça veut dire qu'en fait, oubliez que le monde est circulaire, imaginez-vous que le temps passe sur une ligne horizontale. Donc, il y a toutes les générations qui passent, et il y a toujours la même verticale qui descend et qui rencontre la période en question. Alors, parfois, la même verticale rencontre le judaïsme avec 14 millions de juifs, parfois il y en a plus que 2, parfois il y en a 20, vous avez compris ? Les générations passent, mais la verticale, elle ne bouge pas. Non, ça dépend de rien du tout. Lui ne change pas. C'est nous qui changeons le fait de recevoir plus ou moins. D'accord ?
Le faisceau, il change pas.
Le faisceau ne change jamais. Plus tu es proche du faisceau, plus tu reçois sa pleine lumière. Plus tu t'éloignes du faisceau, c'est ton problème.
En pratique, en fait.
Les deux, parce que quand le peuple n'est plus sur sa terre, Chas v'Shalom, pendant 2000 ans d'exil, même le Klal y prend un coup, malheureusement, au niveau de son dévoilement. Hein. On appelle ça des Atzamot Yevechot. On arrive à devenir comme des ossements desséchés. Pourquoi un ossement est desséché? Parce qu'il ne reçoit plus le flux de vie qu'il doit recevoir, qu'il devrait recevoir pour vivre. On appelle ça la rosée qui le fait vivre. Tal Tria. Tal Shel Tria, une rosée vivifiante. D'accord ? Ce n'est pas une rosée, c'est un tal, c'est 39. C'est tête la même. Ça veut dire que du nom de Dieu, quand tu l'ouvres, okay, comme ça, Yud, Ke, Vav, Ke, vous voyez? Bien, tout ça, c'est en valeur numérique 45. Ça, c'est la valeur numérique 45. D'accord? Le problème, c'est que cette dernière lettre ne reçoit pas la lumière. Parce que c'est nous. C'est la réception. Donc, en fait, il ne reste plus que 45 moins... 6, ça fait combien? 39. C'est ça le tal. Ça veut dire que c'est avec les 39, on appelle ça la rosée, mais c'est pas de la rosée, c'est les 39 degrés qui nous font vivre en attendant que nous soyons capables de recevoir. D'accord? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Parce que ça, c'est la pensée divine, c'est le Yud. Ça, c'est le discernement du divin. Ça, c'est le passage du divin. Et ça, c'est notre réception. Mais parce que c'est les quatre lettres du nom d'Hachem. Le tétragramme, le Yud, qui est varqué, j'ai juste ouvert. D'accord? Le Yud, je l'ai écrit Yud. T'as compris? C'est tout, j'ai juste ouvert les lettres. Ça s'appelle un miloui. J'ai rempli les lettres. D'accord? Donc on sait que le Yud, c'est la Chokhma, la sagesse. On sait que le He, c'est la Bina, le discernement. On sait que le Vav, c'est le lien, Vav Achibur. Et on sait que le dernier He, c'est la Malchut. Donc tant qu'il n'y a pas de Malchut, de royauté dans ce monde, eh bien on reçoit, pour l'instant, on reçoit que la rosée. C'est pour ça que dans le Fatah Eliyahu, qu'est-ce que vous dites? Shiroshi, Nimla, Tal. J'ai ma tête qui est remplie de rosée. Alors toi, tu as l'impression que c'est la rosée du matin. En fait, ça veut dire que je n'ai pas encore le dernier. Et pourquoi? Parce qu'il dit là-bas, dans Fatah Eliyahu, Shrinta Begaluta. Parce que la Shrina est en exil. D'accord? Donc il ne me reste plus sur les 45 degrés, il ne me reste plus que 39. Et j'attends avec impatience le retour du Jedi. Mais quoi, c'est exactement ça, Shaddai, c'est Shem Shaddai. Que vous croyez qu'il a inventé le truc, le mec? C'est le retour du Shem, Shin Dalet Yud. Vous savez pas? Le Vadai. Vous êtes à côté de la plaque, les mecs. Ken, lui, il parlait de ça. Ils ont tout pris de la Kabbalah. Tov, Vechazdova Amito. Vous croyez que c'était un mot en japonais ou en chinois? Jedi, je sais pas quoi. Ils ne savent pas le prononcer, c'est tout. Vechazdova Amito. Tamid imanu leolam ou meolam adolam ataël. Donc en réalité, sa volonté, okay, et sa vérité, sa bonté, c'est toujours avec nous, à vie. Ou meolam veadolam ataël. Et de. Du Olam jusqu'au Olam, c'est-à-dire de la fin jusqu'à la fin, c'est toi qui es seul, c'est toi qui dirige tout. C'est dur pour les gens intelligents, hein. Ils deviennent fous avec ça. C'est du mal, quand tu es intelligent, tu as du mal avec ça. Tu te dis, mais pourquoi lui et pas moi? Ben oui, mais beaucoup de gens, ils ont un problème avec ça. Hein. Ça leur fait, ça leur casse leur système intelligent. Ils disent qu'ils sont en souffrance. J'aurais bien voulu être lui. Pour le connaître vraiment. Mais tu peux pas, c'est l'infini. Ça te dépasse, il faut que tu saches que ça te dépasse. Ce n'est pas dans ton niveau. Mais tu dois faire tous les efforts possibles et imaginables pour essayer de comprendre un tout petit peu au moins.
Le mot philosophique, c'est ce qu'il pense.
Mais voilà, c'est pour ça que je parle de ça. Achen ata el mistacher. Alors effectivement, dit le prophète Isaïe, tu es un Dieu qui se cache. Qu'est-ce qu'on va faire? Il se cache, le pauvre, il se cache. Tout le monde dans lequel nous sommes s'appelle la cachette. Olam. Olam veut dire une cachette. Mais l'âme, c'est se cacher. Donc le monde dans lequel nous sommes, on joue à cache-cache en fait. Dieu s'est caché dans le monde qu'il a créé.
Il se dévoile
où? Non, il se dévoile par des actions. Mais c'est très petit. La preuve, c'est que la plupart des gens n'y croient même pas. C'est la nature, c'est pas Dieu. C'est tellement bien caché qu'il te dit, ah, c'est caché, mais non. Je peux pas croire en Dieu, moi. Tu me parles de la nature, d'accord, mais c'est quoi tu me parles? C'est ça que Dieu se cache. D'accord? Achen ata el mistater, Elohe Israël, Moshia. Alors que c'est toi qui nous sauve de toutes les situations, c'est toi qui es là, c'est la vérité absolue qui est tellement cachée, tellement silencieux. Terrible, on ne te voit même pas. On peut se tromper toute sa vie parce qu'il est tellement silencieux, tellement discret, tellement... Vous vous rendez compte? Combien nous, on est indiscret par rapport à lui? Toi, quand tu as quelque chose à dire, tu veux que tout le monde l'entende. Il faut que tu racontes à tout le monde, il faut que tu envoies vite des WhatsApp, des machins, des trucs. Et lui, regarde-moi ça, cette tranquillité, cette discrétion, cette humilité divine. Waouh! Un silence total, tu peux être resté chez toi, tranquille, dans ton lit, à faire les plus grandes bêtises du monde, et il est discret. Il fait zarma comme s'il ne te voyait pas. C'est terrible, hein? Aïe, 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 aïe. Ken gam ve'atem bnei Israël ochlitem. Et sachez que c'est parce que je suis infini comme ça que vous êtes encore vivant, que je vaux encore de vous. Parce que je vous ai créé pour arriver à avancer mon dévoilement. C'est tout. J'ai une colle nefilatam viridatam emruim le shem kochim, parce qu'avec toute leur chute, toute leur descente, eh bien, ils sont encore aptes à recevoir. Il y a un type qui est venu même avec un chien à la synagogue. Le mec, il a dit, mais il ne peut pas rentrer. Mais pourquoi il ne peut pas rentrer? Il dit, c'est un chien, ça ne va pas ou quoi? C'est un endroit pour les gens qui prient. Il dit, mais c'est un juif. Mais comment c'est un juif? C'est un chien. Il dit, regarde. Il dit, mets la kippa. Le chien, il met la kippa. Il dit, commence à prier, il commence. À... folie ça, il tourne les pages et tout, hein. Il tourne les pages et tout. Mais la folie, mais tu sais quoi? Mais va à Las Vegas, tu vas faire une fortune avec ça. Il dit, j'arrête pas de lui dire. Mais il a une seule chose en tête, rentrer à la yeshiva. Ça veut dire qu'en réalité, que tu fasses quoi que tu veux, tu es toujours dans le Kodesh. Il y en a un seul qui a rempli ou deux, c'est pas grave. Bnei Yaakov, Zera Israël Avdu Bnei Yaakov Bechirav. Ça veut dire que c'est le peuple d'Israël, ceux qui ont été choisis par Akadosh Baruch Hu. Mamash kashchina she'im kol tzimtzuma ve'alamat ora en ze poel shum shinui chalila ba'atzmuta. Comme la Shina, alors qu'elle a contracté sa lumière, elle est toujours la Shina. Elle, pour elle, elle n'a pas changé. C'est seulement ce que nous on reçoit qui est plus bas. On est d'accord que le grand Rav, même quand il te dit la moitié de ce qu'il voulait te dire, c'est pas parce qu'il sait pas, c'est parce qu'il veut pas, parce qu'il fait en sorte de simplifier les choses. Si le Rav Kook nous avait sorti toute sa lumière, alors là on n'aurait vraiment rien compris. Donc il a essayé de coder ça dans des codes écrits. Alors à Kadosh Baruch Hu, n'en parlons pas. S'il nous avait pas raconté une histoire dans la Torah, on n'aurait rien compris. C'est pour ça qu'il faut étudier. C'est pour ça qu'on est sans arrêt toutes les époques à essayer de comprendre et à essayer de combattre les uns les autres, à essayer de voir dans toutes les et jusqu'au grand d'Israël de toutes les époques pour essayer de comprendre. C'est vraiment qu'on ne s'est pas trompé et qu'on essaye vraiment de comprendre jusqu'à ce que Dieu lui dise, même lui-même, va dire ce que mes élèves, mes enfants vont dire, c'est la vérité. C'est comme ça que je pense.
Okay. Mais comment on peut savoir que c'est la vérité?
Ce n'est pas la vérité, c'est la volonté. La vérité, elle est trop grande pour nous.
Déjà, quand on lit la Torah et qu'on comprend des choses, comment...
C'est une partie d'une grande vérité. Donc, c'est une parcelle. Mais tu dois t'associer avec ton copain et avec lui et avec lui, parce que lui aussi, il a une autre vision des choses. Donc il va compléter.
C'est l'homme et la femme.
La même chose, l'homme et la femme. D'accord. Tu vas te marier bientôt ou quoi? Ah, c'est ça. Je suis encore jeune. Après demain. Donc, Ani Hashem, Lo Shaniti. Donc, moi, je n'ai pas changé. Okay. Ce n'est pas la chanson, c'est Akadosh Baruch Hu qui le dit. Gam Israël, im kol timtsumam ve'alamat or kocham, inam tamid betzivion kocham. Donc, de la même manière que Dieu n'a jamais changé, Israël ne changera jamais. Il restera dans sa sainteté de base. Ve'taharam keme'az ume'olam. Et leur pureté intérieure restera comme au début jusqu'à la fin. Ve'atem bnei Yaakov lochlitem, et c'est ça encore le verset qu'il ramène, et vous, les enfants de Yaakov, vous serez dans cette éternité parce que c'est moi qui vous ai voulu, donc je suis en fait avec vous tout le temps. Voilà pour aujourd'hui. Toda Rabba.
Tu prends le texte?
Okay.